magistrale, mais plutôt à une conversation avec d'éventuels témoins, d'ailleurs, de la télé ou de la radio, aux journalistes qui sont formés à Sciences Po. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un problème de culture générale, que sûrement, il y a un problème de conditions de travail, qui n'excuse pas, hein, parce qu'il faut aussi, ils ont des syndicats, ils ont des syndicats, il faut se détendre, quoi, il faut. Et puis, il y a aussi quelque chose qui me semble être peut-être aussi grave, c'est souvent il n'y a pas de formation au jugement, vous voyez, au discernement. Or ça, je crois que c'est très important. Moi, quand le Tiempo, ils avaient des études de communication, mais ils n'avaient pas d'école de journalisme à l'époque. Hein. Ils en ont une qui a été créée par ce gosse de viageur qui était déjà. Des coins. Et comme moi j'ai fait un peu enseigner pendant 6 ans de cette manière-là, j'ai intéressé, m'a beaucoup intéressé, j'ai beaucoup de plaisir à aller les voir, les jeunes journalistes. C'est du bien, on est un peu chahutés aussi, c'est bien. Et alors, le directeur de Sciences Po, avant de prendre son école, a appelé un certain nombre d'entre nous, le directeur de journaux, tout ça. Et je lui ai écouté, Sciences Po, moi je me suis régalé, je ne connaissais pas, quand j'ai fait l'université, c'est une belle école, là, franchement, c'est une belle école, des étudiants qui travaillent plutôt bien, qui sont fidèles, qui sont sérieux, hein, qui sont là au cours, en tout cas. Et je lui disais que moi, personnellement, je mettrais dans son école une formation au jugement. Parce que c'est très important. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, une formation au jugement, parce que c'est pas évident à faire, c'est sans doute à travers des témoignages, une conversation, mais est-ce que ça s'apprend, je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un problème, parce que plus le monde est complexe, plus il faut aller vite, plus vous êtes sous pression. Il faut avoir les capacités psychologiques, intellectuelles et morales de faire face, quoi. Et c'est très important, c'est un métier qui nécessite du jugement. Il nécessite du jugement parce que faut être fidèle aux faits qu'on rapporte, faut respecter les personnes dans les mots qu'on va utiliser. C'est tout ça qui est en cause, hein. C'est une vision humaniste de la société. Et donc, les mêmes, par exemple, aujourd'hui vous avez vu aussi, c'est une petite situation, excusez-moi de dire ça, mais. Regardez comment on vous met à l'écran pour l'information des belles filles quand même, hein. C'est pas pour rien qu'elles sont là, celles-là. Elles sont aussi embauchées sur des critères physiques de beauté, hein. De capacité à être vivante et tout ça. Et elles, souvent, alors elles, ça peut être, ça arrive aussi, Dieu, merci, l'égalité à la matière. Des hommes, mais la manière dont les questions n'attendent pas la réponse, hein. C'est terrible, ça arrive à la radio aussi, on ne les voit pas, mais à la télé on les voit, c'est encore pire de la manière de les voir, en plus, voilà. Agité, comme si, avant même qu'il ait fini son explication, à peine sont passées 5 secondes, ça y est, pas. Comme s'il fallait se valoriser. On est aussi dans ce problème de l'individuation là. C'est-à-dire que l'individu a besoin de se faire valoir en tant qu'individu. On lui demande pas. Il n'est pas là pour se faire valoir. C'est pas lui qu'on vient écouter et l'interviewer. Donc, voilà. Et donc, du coup, on arrive à des saturations. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle interviewe un homme politique, une femme politique, souvent, les hommes et femmes politiques en question, ils sont tellement comme ça, baba, d'avoir un truc à la télé, d'être à la télé, de se montrer avec une belle femme en plus à la télé, du matin, tout ça. Mais vous savez, c'est comme ça que ça se passe dans la tête, hein. Ils vous lisent dans le même sens, ils font d'une phrase à l'autre, ils savent à peine ce qu'ils ont fini la phrase précédente, vous voyez, ils sont pas capables. Souvent, ils ne sont pas capables, sauf quelques-uns, vous comprenez bien, je pas si c'est mort. Mais de dire, madame, mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-moi la supplier la réponse à la question que vous m'avez posée. Chacun son boulot, quoi. On n'est pas dans le chiffre. Et pourtant, on est dans le chiffre. Voilà. Et pourtant, il faut que ce soit aussi. Bon, là, c'est un sujet important, hein, parce qu'il touche, il touche à une situation qui finit par devenir difficile et grave à terme. Bon, alors, ça non plus ne généralise pas, mais ça devient un phénomène grandissant. Voilà.
Oui, monsieur. Oui. Je voudrais apporter une petite note optimiste.
Ah, vous avez raison. Ça ne veut pas lui dire.
Donc, tout d'abord, j'ai énormément apprécié votre conférence. Je m'y suis pleinement retrouvé.
Oui, merci.
Et je voudrais apporter une petite précision concernant l'information qui pourrait nous venir du Moyen-Orient. On a eu la chance, mon épouse et moi, d'aller à Jérusalem, en pèlerinage, il y a 2 ans, et nous y avons rencontré Marie-Arielle Beaulieu, que vous connaissez sans doute. Et là, elle nous a tenu des propos merveilleux. On était tous sous son charme, mais les propos tenus allaient de l'avant et nous apportaient quelque chose de riche. Finalement, les informations que l'on pourrait détenir de là-bas, de cette région, qu'on ne nous donne pas dans les médias, on peut effectivement les avoir à travers certains magazines, et là, beaucoup de choses sont expliquées sur cette région du monde. Voilà. Et elle essaie de créer des ponts. Elle crée des ponts là-bas. Et dans son journal, dans sa façon d'être, y compris avec les occupants, y compris avec les colons, parce que ça va jusque là. Et à partir de là, elle nous a mis sur des rails qui font que il y a de l'espoir là-bas, malgré la situation très critique. Et c'est quand même sacrément riche, je dis, de pouvoir se saisir de cette revue pour pouvoir avoir des explications sur cette région du monde. Voilà ce que je voulais apporter. Et il se passe des belles choses là-bas quand même.
Oui, Marie-Armelle Beaulieu, qui est donc la responsable de la communication de ce qu'on appelle la chrétienne. À Rome, il y a donc les franciscains ont été chargés historiquement, c'est lointain déjà, de la garde du Saint-Sépulcre, enfin de tout ce qui est les lieux saints qui dépendent de la France aussi, enfin de l'Occident. Et donc il y a un custode, comme on dit, c'est-à-dire un gardien, qui est un franciscain en général. Et c'est une vieille tradition de confier donc aux franciscains cette tâche là. Donc Marie-Armelle Beaulieu est une communicante, donc, d'où le titre de son magazine, s'appelle Terra Santa, Terra, et qui est visible sur le site hein, de Terra Santa. Elle a une sœur, d'ailleurs, qui est journaliste, Véronique, avec laquelle, qui est membre de notre réseau, voilà, et avec laquelle on essaie de voir, il faudrait de l'argent, si vous avez des bons actionnaires. Ben, okay. Notre rêve, là, pour notre réseau et pour l'œuvre d'Orient, Pâques Chrétiennes, tout ça, serait aussi pour précisément combler un peu de l'ignorance, quoi, faire un documentaire sur les chrétiens du Moyen-Orient, qui explique, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'histoire, qu'est-ce qu'ils ont été, comment ils vivent, comment aujourd'hui, où sont les difficultés, où sont aussi leurs espoirs, et leur lien avec leurs amis musulmans, comment ça se passe en Palestine. C'est étonnant les liens avec ceux qui liront le témoignage de Père Moussalam. Si vous la lisez, vous verrez comment à Gaza, cet homme-là, ce prêtre, a travaillé de près avec les musulmans. Et c'était le Hamas à l'époque, ça l'est toujours. Mais, donc on ne soupçonne pas ce qu'il a raison. les choses qui se passent et qui sont Dieu merci. Hein. Dieu merci, il y a en Israël, puisqu'on parle de, vous parlez de l'occupant, il y a aujourd'hui, on sait, mais j'en ai rencontré, un voyage aussi rencontré, par exemple, une femme qui est rabbin, donc elle est rabbin d'une synagogue de Jérusalem, qui est membre d'une association qui s'appelle les Rabbins pour les Droits de l'Homme. Et cette association des Rabbins pour les Droits de l'Homme a été créée par un ancien rabbin de grand rabbin de Strasbourg, le rabbin Barchavsky, dont le fils est à Jérusalem, et lui est devenu un soutien très fort des Palestiniens, tout en restant fidèle à sa famille, à sa fille. Il passe le Shabbat avec son père et sa mère, qui sont à Jérusalem. Et la femme dont je vous parlais, cette femme rabbin, elle allait tous les ans, je pense qu'elle continue, avec sa communauté, les membres de sa communauté, reconstruire à l'époque où les maisons étaient toujours détruites, étaient détruites. Donc, ils allaient reconstruire, ou ils allaient, pendant la cueillette des olives, aider les paysans palestiniens, ou surveiller pour pas que les colons attaquent trop, vraiment, bref. Donc, en effet, bien sûr, il y a des acteurs de paix en Israël. D'ailleurs, après notre voyage d'études en Palestine, je pense qu'on fera un voyage d'études en Israël portant sur les acteurs de paix. Malheureusement, ils ont perdu une part de leur arme, mais ça revient. Dans les grands, vous avez vu, la supplique d'Abraham Burg, l'ancien président de la Knesset. Une supplique émouvante dans le monde, suppliant le président de la République française, lui, l'ancien président de la Knesset, Abraham Burg, de reconnaître l'État de Palestine. Je vous implore, monsieur le président, au nom de la paix, je vous implore de reconnaître l'État de Palestine à l'ONU. Il y a quelques semaines. Donc on a, oui, bien sûr. Des cinéastes, il y a des poètes, il y a tout ça, des gens qui œuvrent pour la paix. Il y a une association de défense des droits de l'homme qui dénonce parfois la torture. Bon, voilà, c'est le CLM. Merci de votre témoignage.
J'ai une question là-bas au fond. On apprend qu'on souhaite qu'on se tient au cela. Plutôt que de dire les agriculteurs disent cela, les députés, les employeurs, comment, quand on a un métier de journaliste, comment on peut présenter les choses, l'information de telle façon? Ben, ils ne voient pas qu'ils noient le poisson, qu'ils ne disent pas la vérité, quoi. Vous entendez, vous, comme ça ou pas?
Parce qu'ils disent, c'est une déformation qui leur vient de la, surtout dans l'information rapide et continue, hein. Mais souvent, ils viennent de lire une dépêche. Hein, donc ils prennent, parce que le journal, l'émission de télé, etc., elle ne peut pas fonctionner seulement avec, on ne copie pas les uns des autres quand même, hein. Donc on n'attend pas que le monde fait son papier, encore que de temps en temps ça arrive, pour en parler au journal de 20h, vous voyez, de la télévision. Alors le monde sort, par exemple, l'après-midi à 13h à Paris. Et de temps en temps, ils voient que le monde a des informations que eux n'ont pas eues à France Télévisions, parce que le monde a, un reporter ou un correspondant à New York ou à Moscou qui lui a envoyé l'information. Donc là, le journaliste a tendance, ou le média qui en parlait, à dire, le monde nous a appris aujourd'hui, ou nous apprenons par le monde, c'est une question de respect des sources. Vous voyez? Donc, mais normalement, ils doivent quitter leurs sources. Sauf avec les dépêches d'agence. Vous voyez, une dépêche. Parce que la dépêche, l'ordinateur, il crache seconde après seconde des nouvelles du monde entier. Vous voyez, les correspondants de l'agence française, par exemple, il y en a partout dans le monde. Donc, ils amènent de l'information. Alors, soit le journaliste va avoir cette information de différents côtés, une autre agence, il va téléphoner à ce correspondant, il a 8 ans, il va vérifier, et là il va prendre l'information à son compte, hein, parce que il a travaillé dessus. Maintenant il a vérifié, il a appris un complément par son correspondant à New York ou à Moscou, et il va dire, voilà, il va dire, Monsieur Obama est furieux après le congrès qu'il a reçu Monsieur Netanyahu, ou je ne sais pas quoi, donc, et puis il va voir, non. Mais si il y arrive une dépêche, et je ne sais pas moi, d'une prise de position de syndicat agricole, par exemple, puisque vous évoquez l'agriculture, et qu'il n'a plus que 2 ou 3 minutes, il va dire on apprend que, ou l'agence française nous apprend que, vous voyez, il n'a pas eu le temps de vérifier. Donc il va dire nous on apprend parce que c'est pas lui qui l'a appris. Vous voyez? Donc il ne peut pas. Il peut pas, c'est plutôt à son honneur de dire ça. C'est pas lui qui l'a appris.
Dans le souci de personnes qui créent des ponts, il y a eu à Belfort une exposition de peinture de dans le château des femmes palestiniennes. Pardon? Oui, ça descend. Oui. Oui, ces femmes étaient présentes, enfin, c'était très beau, et c'était organisé par la communauté juive de Belfort. Et le maire avait inauguré cette exposition. Voilà. Et juives, des femmes juives. Oui, et musulmanes, ensemble, elles avaient souvent perdu quelquefois un enfant, ou lors de la guerre.
C'est une association qui, en effet, a été créée par 2 mamans.
Oui, vous connaissez.
Et 2 mamans qui ont perdu chacune leur enfant.
Voilà.
Une palestinienne et une israélienne, qui ont créé une association.
Ils ont un thème en commun, le but de...
Ah, vous aussi, la manne, pas très calme, hein. Franchement, pas très calme, mais bon. Mais c'est vrai que vous avez de très bons moyens de vous informer, au moins de comprendre, même si c'est pas suffisant pour un grand public, que vous pouvez aller sur France Culture, vous aurez souvent un très beau journal du matin, et puis vous aurez en cours de journée des émissions d'information, ou de débat intéressante, intelligente et puis approfondie, hein, sur beaucoup de choses. Et c'est là qu'il y a maintenant Culture d'Islam, hein, qui vient d'être pris en charge par quelqu'un que vous aurez l'occasion peut-être d'entendre, qui s'appelle aussi Abdelou Bidana, c'est un philosophe d'Islam très 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 intéressant, Abdelou Bidana. Et puis, en culture, mais aussi Arte, par la télévision, hein, mais aussi c'est dans l'air, on en a parlé, mais aussi, non, il y a de temps en temps, il y a des bonnes émissions, il faut saluer, vous allez faire regarder Cash Investigation, non, avec Élise Lucet, l'autre jour, sur les actionnaires, non, vous avez vu ça, non, elle a bien travaillé, voilà un modèle de travail journalistique difficile qu'il a eu à demander sur le gouvernement. 6 mois, hein. Elle a, avec une équipe évidemment, vous voyez qui c'est, elle est une étudiante, celle qui présente le journal de 13 heures, et qui a donc pris du temps pour faire une grande enquête sur ce moment des assemblées générales des grands groupes du CAC 40. Et sur les votes donnés de l'argent aux actionnaires. Ce sont des sommes considérables, qui multiplient par centaines de fois le SMIC et tout ça. Elle a fait une carte d'actionnaire de Sanofi, je crois. Elle a fait une carte d'actionnaire de Sanofi, et donc elle est allée à l'Assemblée générale avec son équipe, et donc à la fin, il y avait des questions. Et donc, les petits actionnaires, en général, les grands, ils peuvent régler leurs problèmes en conseil d'administration. Et donc, les petits actionnaires qui posent des questions, alors est-ce qu'elle a demandé la parole? c'était à son micro, et voilà, la première, elle l'a posé au président, hein, quand il n'a pas voulu répondre. Et puis après, elle a, voilà, il a insisté, enfin bref, elle a fait un bon travail d'investigation, vraiment, assez terrifiant sur le plan de justice sociale. Ah. L'argent qui gouverne tout le monde, disons. Alors, fini. Il n'y a plus rien qui vous reste dans le cœur.
Je ne vous ai pas ennuyé.
Alors, je remercie profondément Jean-Claude Petit pour l'applaudir. Merci. Donc, on a appelé bien aller de la France. On remercie les gens qui ont suivi parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Alors, dans les informations, bon, c'est pas l'habitude, il y a des paniers à la sortie, ça nous permet de vivre. Puis d'autres informations, dans les gens qui sont au bureau, il y a une personne, Marie Cécile, qui est co-auteur d'un bouquin. Si elle se croit, car je crois tous les jours qu'on est présent de la situation, cette personne est écrit en bouquin. Donc ici, elle sera une dédicace. C'est un travail collectif. Voilà, un travail qui est collectif, mais bon, c'est beaucoup. Donc, ce livre, elle le dédicacera samedi après-midi de 14h.
De 15 à 17.
De 15 à 17, elle a dû faire à Montréal. Je voudrais dire, tout petit qu'il va dire, on cherche à faire vivre, on arrive. Ça nous donnait à retrouver dans le domaine de l'intelligence de la foi, du religieux, d'avoir une richesse culturelle. Il faut que ce genre de vie à vie indépendante vive. Sinon, je n'ai plus que 2-3 grosses éditions à le faire. Je ne dis pas que c'est intéressant, mais en tout cas, je suis éditorial, ça laisse sceptique, surtout dans le domaine de l'éducation. Alors, on s'en croit, plus jamais à la fin. En tout cas, merci à vous tous.
Je suis la date de la prochaine conférence.
C'est 8 avril, un autre petit, 9 avril, un autre petit, Jean-François. Merci bien. En tout cas, pour ceux qui sont élus.
Non, religion, politique et engagement.
Voilà. Alors, ayant des sorties de la pour ceux qui sont élus pour les conférences du Carême, parce que là, il y a une autre conférence du Carême qui se situe jeudi prochain au foyer Saint-Lin-de-Saint-Lin-des-Gars. C'est CCD. Vous pouvez également le lire, c'est intéressant. C'est Rachid et Chenet, le Fabien. En tout cas, bonsoir à vous tous et merci. N'oubliez pas les panneaux.